réveillez sur internet, à la radio, sur votre téléphone et en DAB+, il est 15h sur Radio Aviva. Radio Aviva, le flash info.
Bonjour, une enquête judiciaire ouverte après la blessure par balle du chanteur Kenji Girac. L'artiste est hospitalisé à Bordeaux après avoir reçu un tir sur le thorax la nuit dernière sur une aire d'accueil de gens du voyage à Biscarrosse. Son pronostic vital n'est plus engagé, il a pu être entendu par les enquêteurs. Le chanteur de 27 ans a déclaré qu'il s'agissait d'un accident domestique en évoquant la mauvaise manipulation d'une arme à feu achetée plus tôt dans une brocante. L'arme à l'origine du tir a été retrouvée dans un fossé sans chargeur. Gabriel Attal était à Nice ce matin, le Premier ministre est venu inaugurer un internat expérimental qui accueillera des élèves décrocheurs et primo-délinquants. Objectif, les couper de leur mauvaise fréquentation alors que le nombre d'agressions violentes entre jeunes s'est multiplié ces dernières semaines. Le chef du gouvernement a aussi indiqué que les travaux d'intérêt éducatif pour les moins de 16 ans entreront en vigueur dès la semaine prochaine. Quasiment 8 ans après les faits, le procès en appel de l'attentat de Nice s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises spéciale de Paris. Deux des condamnés sont une nouvelle fois jugés pour leur participation à cette attaque qui avait fait, on le rappelle, 86 morts et 450 blessés sur la promenade des Anglais le 14 juillet 2016. Ce procès en appel doit durer jusqu'au 14 juin. L'homme qui est entré vendredi dans le consulat d'Iran à Paris, jugé aujourd'hui en comparution immédiate. Il avait affirmé porter des explosifs qui étaient en réalité factices en proférant des menaces. Ce franco-iranien d'une soixantaine d'années souffrirait de troubles psychologiques. Alors que le froid fait son retour cette semaine, l'Europe a connu en 2023 un nombre record de jours de stress thermique extrême. D'après un rapport de l'Observatoire européen Copernicus, la température ressentie a dépassé l'équivalent de 46 degrés certains jours. Et puis, Sophie Adonneau, désormais diplômée, l'astronaute française sélectionnée pour rejoindre la Station spatiale internationale, vient de terminer la première phase de sa formation à Cologne en Allemagne. Pour l'instant, la date et les objectifs de sa future mission n'ont pas été dévoilés. Voilà pour les essentiel de l'actualité. Très bonne journée à notre écoute.
La météo dans l'Hérault.
Bonjour à toutes et à tous. Le temps est ensoleillé aujourd'hui sur la totalité du département. Les températures varient entre 15 degrés à Lunel et 16 degrés à Montpellier. Demain mardi, un temps pluvieux s'imposera dans l'Hérault. On attend 11 degrés le matin à 7 et 16 degrés l'après-midi à Montagnac. Je vous souhaite de passer un très bel après-midi à l'écoute des programmes de Radio Aviva.
Radio Aviva à Montpellier, Carnon et Saint-Gély-du-Fesc, 88 FM en DAB+ et partout dans le monde, radio-aviva.com.
Je suis particulièrement heureux parce que ce soir, ce qui se déroule ici semble refléter le théâtre dans sa diversité, dans sa pluralité. En effet, je crois depuis toujours que le théâtre, ce n'est pas ceci ou cela, c'est ceci et cela.
La compagnie théâtrale, une émission de Radio Aviva, proposée, préparée et présentée par Jacques Matteux.
La semaine dernière, nous avons ouvert l'histoire de vie de cette grande dame de théâtre qu'est Ariane Mnouchkine. Nous avons assisté aux étapes fondatrices de sa vie de théâtre, Oxford et la révélation d'une vocation, l'Asie et la découverte d'un langage théâtral essentiel, Jacques Lecoq et la compréhension du langage du corps et du théâtre oriental, des dates fondamentales, 1964, création du Théâtre du Soleil, 1968, décision que toute nouvelle création sera fondée sur l'histoire avec un grand H, extrêmement transposé, afin d'éclairer le présent, notre présent dans le monde. Un nouveau langage scénique s'impose, l'épopée, qui pourra se nourrir de tragédies grecques, de cirque, de commedia dell'arte ou de théâtre oriental. Alors après la pose des salins d'art qui s'annonce, donc au lendemain de mai 68, le Théâtre du Soleil propose, un an plus tard, Les Clowns, pièce nourrie d'impro individuelle et collective, qui pose le problème de la créativité des comédiens et de leur fonction dans la société. dénonçant l'ordre imposé, l'empêchement d'être vraiment soi-même dans une société normée. C'était là une bonne remise en jambe avant d'entreprendre le grand théâtre d'histoire dont il rêve. Le voici enfin, entre les années 70 et 75, ce sera la grande saga des 1789, 1793 et de l'âge d'or. Saga qui peut d'autant mieux naître, car Yann Nouchkine vient de trouver un lieu magique pour installer sa troupe, la Cartoucherie, lieu désaffecté, niché en plein bois de Vincennes. Ces trois spectacles, à la scénographie explosée sur plusieurs tréteaux d'où allaient et venaient les spectateurs, revisitaient des formes théâtrales populaires, le théâtre de foire, le mystère médiéval, la commedia dell'arte, le cirque, avec une règle fondamentale, fuir tout réalisme. Seule la transposition éclaire souvent ce qui est brouillé, répète Ariane Nouchkine. Seul ce théâtre peut aider à rendre visible ce que l'habitude empêche de voir. Surgissait alors un théâtre épique avec des comédiens tour à tour bateleurs, poètes et clowns, éclairant l'histoire passée pour nous faire ouvrir les yeux sur l'histoire d'aujourd'hui, notre histoire. Dans 1789, on voit la Révolution se jouer au niveau du peuple, démystifiant le rôle dont se sont prévalus nombre de personnages connus qui ont tiré la couverture à eux, tout comme en 68. 1793, c'est la confiscation de la Révolution par la bourgeoisie, par la puissance de l'armée et de la finance. Là encore, comment ne pas faire le parallèle entre cette parole populaire bâillonnée et l'étiolement des acquis et de la liberté, de ton et de mœurs qui suivit l'exaltation de 1968. L'âge d'or, dernier volet de cette saga, inverse quant à lui la perspective. Il parle de l'époque contemporaine, soit 1975, et de ses difficultés à vivre, observées depuis le futur, depuis l'an 2000, vu comme le seuil d'une ère nouvelle, celle d'un âge d'or. Ces trois spectacles constituent autant de parcours lumineux pour le public, mais sont excessivement lourds à porter pour les comédiens. Et apparaissent alors des tensions dans la troupe. Une vraie crise s'installe. Alors pour dynamiser le groupe, Ariane décide de passer par le cinéma et d'y raconter l'aventure d'une troupe exemplaire dont on pouvait s'inspirer, celle de Molière, qui résolvait toujours les crises internes par de nouvelles créations. Le film connut un grand succès, vous vous en souvenez sans doute. Philippe Cobert y brilla comme il avait brillé sur scène. Mais il partit, voler ailleurs de ses propres ailes, déstabilisant un temps les autres comédiens et affectant considérablement Ariane. L'art, toujours, lui permit d'apaiser et remobiliser la troupe du soleil. Ainsi naquit en 1980 Mephisto, le roman d'une carrière adapté de Klaus Mann, le fils de Thomas Mann, qui allait ouvrir une réflexion sur l'engagement des artistes en temps de crise, sur l'abandon des idéaux par arrivisme, là dans l'Allemagne nazie, ici dans une compagnie politisée où le tout collectif a créé beaucoup de frustration. Mephisto est une métaphore de toutes les soumissions au régime totalitaire qui finalement autorise ces derniers à perpétrer leurs exactions. Et c'est là, bien évidemment, un encouragement à rester vigilant pour repérer et dénoncer les petits événements quotidiens qui, insidieusement, peuvent faire le lit de nouveaux fascismes. Et le danger est toujours là. Mais rien de mieux que Shakespeare pour remettre les pendules à l'heure et apprendre à raconter l'histoire, à en témoigner pour son temps avec toujours ce même principe de transposition, éclairer le présent à la lumière du passé. De 1981 à 1984, Ariane Nouchkine se met à la traduction de Richard II, de La Nuit des Rois et de Henri IV et les revisite magnifiquement toutes trois avec pour nouvel outil le théâtre oriental, nous y voilà. Le no et le kabuki japonais, avec leurs masques et leurs maîtres de soie bariolée. Richard II, à tonsure de moine, tout de blanc vêtu, emporté par sa garde de samouraï, c'était magnifique cet Orient qui faisait irruption. Et l'on percevait bien mieux soudain, par le jeu de cette transposition d'une esthétique saisissante, toute la violence et la malédiction de tout pouvoir, politique ou autre. Après le triomphe de ce cycle Shakespeare, Ariane Nouchkine eut l'idée de proposer une collaboration à Hélène Cixous, écrivain et dramaturge, pour traiter encore et toujours du monde contemporain. Hélène Cixous suivait depuis des années le travail de cette troupe hors du commun. En 1983, quand Ariane Nouchkine lui propose d'écrire pour le Théâtre du Soleil, elle accepte avec enthousiasme d'essayer. Et ce fut une des grandes dates, une des grandes rencontres du soleil qui lui a alors permis de dépasser la création collective. Hélène Cixous possède une intelligence magistrale et décapante. C'est une immense écrivaine qui sait que le théâtre s'agit plus qu'il ne s'écrit, que chaque mot doit être action et non commentaire, et que l'auteur, comme l'acteur, est un médium. Il doit laisser venir, accueillir ses personnages. Et chose exceptionnelle, en plus de toutes ses qualités, Hélène Cixous a l'enthousiasme et l'énergie d'une petite fille, le rêve. La première collaboration fut l'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge, sur le drame de ce pays avec ce terrible génocide induit par les Khmers rouges. Puis en 87, ce fut l'Indiade ou l'Inde de leurs rêves qui raconte la division sanglante de l'Inde avec naissance du Pakistan, sitôt obtenu l'indépendance. Les affrontements fratricides entre hindous, sikhs et musulmans sont ici la métaphore de toutes les divisions, de toutes les séparations qui nous guettent en permanence. Alors tant pour le Cambodge que pour l'Inde, et nous le verrons aussi plus tard pour le camp de Sangat, Ariane Nouchkine, Hélène Cixous et certains comédiens se sont rendus sur place, ne voulant pas se contenter des seules informations des médias, afin d'enquêter auprès de survivants, auprès de réfugiés, écouter, voir, tenter de comprendre. Ils ont retrouvé de grands héros, de petits héros, ou des gens affreux, en sachant déjà qu'ils allaient devenir des êtres de théâtre. Tout au long de ces années, bien sûr, il y eut des crises, des amours et des amours, des départs d'anciens attirés par mille autres choses, dont la volonté d'exister par soi-même, seul, gagner mieux sa vie. Mais il y eut aussi des arrivées de nouveaux venus, et à chaque spectacle, il fallait repartir de zéro, car il n'y a pas de méthode au Théâtre du Soleil, sinon toujours chercher.
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
Vous êtes de retour dans la compagnie théâtrale sur Radio Aviva, en compagnie de Jacques Matheux, à la découverte ou à la redécouverte d'Ariane Nouchkine. 1990, Ariane Nouchkine retourne aux anciens pour y puiser une inspiration neuve. Le soleil se met à la tragédie grecque avec les Atrides, une tétralogie déclinée sur 4 ans, afin d'aborder le thème de la résistance, à l'heure où résister à nos sociétés décérébrées, au libéralisme échevelé, est une urgence. À la trilogie d'Eschyle, Agamemnon, les Coéphores, les Euménides, s'ajoute en introduction Iphigénie Aulis d'Euripide. Euripide, Eschyle, ont inventé tout le théâtre occidental. Tout y est dit. C'est d'une puissance folle. Il faudra attendre Shakespeare pour relever le défi. C'est impressionnant. Pour les Atrides, Ariel Mnouchkine s'inspire du Kathakali indien pour la mise en espace, avec une beauté formelle qui n'est jamais gratuite. Rappelons-le, comme Artaud, Copeaux, Claudel ou Brecht avant elle, Ariel Mnouchkine pense que l'art de l'acteur est oriental, que là-bas, chaque sentiment trouve une forme codée qui permet de tout métaphoriser et de tout évoquer bien plus subtilement que nos manières réalistes occidentales. L'art de l'acteur, c'est celui de trouver le symptôme d'une passion, d'un sentiment. C'est la métaphorisation du geste. Et la tétralogie erratique imprégnée d'orientalisme fut éblouissante. En 1994, quatre ans plus tard, nouvelle collaboration avec Hélène Cixous, avec La ville parjure ou Le réveil des Erinies, aux allures de tragédie grecque. Nouvelle transposition pour affronter l'aujourd'hui de l'affaire du sang contaminé. Pour alerter les consciences toujours, réveiller les esprits, peut-être un jour changer le monde. Le théâtre doit donner du plaisir, dit Ariel Mnouchkine, mais il a aussi une fonction éthique et pédagogique, nourricière et civilisatrice. Ce qui ne signifie pas qu'il doit être militant. À nous d'incarner dans une forme poétique un fait présent qui concerne toute la société, qui appartient à l'histoire. Le théâtre doit éclairer le monde. 1995, Tartuffe de Molière, pointant par transposition toujours les dangers de l'islamisme, dénonçant un Occident orgon. Puis il y eut de 1997 à 2010 cinq créations collectives, souvent en harmonie avec Hélène Cixous. En 1997, ce fut « Et soudain des nuits d'éveil », belle partition pour défendre le Tibet, mais surtout interroger notre attitude face aux martyrs imposés à un peuple, interroger notre engagement, notre capacité d'accueil de l'étranger. En 1999, ce fut « Tambour sur la digue », sous forme d'une pièce ancienne pour marionnettes jouée par des acteurs, abordant le thème des manipulations financières dans une Chine précapitaliste. Quatre ans plus tard, en 2003, le dernier caravansérail, renvoyant au drame des réfugiés, qui nous fait mieux comprendre la tragédie qu'est l'obligation pour un être humain de s'arracher à la terre où il est né, à son pays, pour s'engager sur des routes inconnues, dangereuses, et échouer à Sangatte dans l'hostilité violente de la raison d'État. En 2006, Les Éphémères, première halte sur la mémoire, première parenthèse autobiographique sur les chemins d'Ariel Mnouchkine, scène de l'intime qui ouvre à l'expérience universelle. Là, une installation bifrontale, au milieu de laquelle les comédiens évoluent sur des plateaux tournants qui se translatent, c'est très beau. Et l'on peut juger là combien la puissance de la matière scénique épaule et autorise la force du propos. En 2010, Ariel Mnouchkine nous offre Les naufragés du fol espoir, un hommage flamboyant à l'utopie à travers les utopies d'avant-guerre 14-18. Mais c'est là aussi un bel hommage personnel aux premiers artisans de ce cinéma dont son père, Alexandre, ne l'oublions pas, fut un si brillant producteur. En 2014, Macbeth, retour au maître Shakespeare. Plus qu'une pièce sur la tyrannie, c'est une pièce sur l'avidité. Cet homme ne peut plus s'arrêter de dominer, de tuer, de posséder. Cela parle de pulsion, de damnation, du mal. En 2016, nouveau changement de registre, Une chambre en Inde, présentée d'ailleurs au Printemps des comédiens, qui répond magistralement à la question de la nécessité de l'art dans un monde en plein chaos. Une pièce qui parle tout à la fois des obscurantismes, de l'histoire du théâtre indien et du théâtre occidental, et pour laquelle Ariel Mnouchkine a choisi ici le mode de la comédie, le rire. Rire accusateur et décapant, convoquant Shakespeare, Tchekhov, Charlie Chaplin et Peter Brook. C'est grandiose. Je considère, dit Ariel Mnouchkine, que le théâtre doit être, en tout cas pour moi, politique et historique et sacré et contemporain et mythologique. Ce sont seulement les proportions qui changent de spectacle en spectacle. Chaque spectacle, nous l'avons vu, traite d'un sujet brûlant qui s'impose à elle, qui me choisit plus que je ne le choisis, dit-elle, et qu'elle traite chaque fois avec un défi esthétique. Il faut s'alléger au maximum, dit-elle, pour qu'advienne le théâtre. Cet instant où cela devient poésie. Ce moment où l'on voit sur scène quelque chose de plus que ce que l'on y voit réellement. Alors tout décolle, on n'est plus dans le réel, mais dans le vrai. Et pour cela, il faut créer un vide matriciel. Vide matriciel au niveau du décor, dépouillé mais esthétique, qui laisse à l'imaginaire de chacun le loisir d'y créer ses propres représentations. Vide matriciel au niveau du comédien, qui doit s'effacer devant le personnage qu'il porte en lui, qui doit rester aussi à l'écoute de l'autre, toujours crédule. Vide matriciel enfin au niveau du spectateur, que l'on doit savoir rendre réceptif, qui n'a pas acheté une simple place de théâtre, mais un moment de vie, en partage, pour éclairer son regard sur le monde. Nous devons ça au public. Vous savez, chaque soir, quand j'ouvre la porte du théâtre, après avoir frappé dessus les trois coups, que j'accueille le public, je ressens de sa part de l'affection dans ce rendez-vous, et c'est réciproque.
Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce, de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage et j'ai tourné bien des pages sans les lire blanches et puis rien dessus. C'est vrai, je ne fus pas sage et mes guerriers de passage à peine vus déjà disparus. Mais à travers leur visage, c'était déjà votre image, c'était vous déjà et le cœur nu. L'histoire d'amour, c'est vous. Sur la longue route qui menait vers vous, sur la longue route, j'allais le cœur fou. Le vent de décembre me gelait au cou. Qu'importe décembre, si c'était pour vous, elle fut longue la route. Mais je l'ai faite la route, celle-là qui menait jusqu'à vous. Et je ne suis pas parjure si ce soir je vous jure que pour vous je l'ai faite à genoux. Il en eût fallu bien d'autres que quelques mauvais apôtres, que l'hiver ou la neige à mon cou. J'ai calmé ma violence, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Mais tant d'hiver et d'automne, de nuit, de jour et personne, vous n'étiez jamais au rendez-vous. Et de vous perdre en courage, soudain me prenait la rage, mon Dieu que j'avais besoin de vous. D'autres m'ont ouvert la porte. Heureuse, je m'en allais loin de vous. Oui, je vous fais infidèle, mais vous revenez quand même. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. J'ai pleuré mes larmes, mais qu'il me fût doux. Oh, qu'il me fût doux ce premier sourire de vous. Et pour une larme qui venait de vous, j'ai pleuré d'amour. Vous souvenez-vous, ce fut un soir en septembre, vous étiez venu m'attendre, ici même vous en souvenez-vous. À vous regarder sourire, à vous aimer sans rien dire, C'est là que j'ai compris tout à coup. J'avais fini mon voyage et j'ai posé mes bagages. Vous étiez venus. L'histoire d'amour, c'est fou.
Madame Barbara, ma plus belle histoire d'amour. Très joli texte d'amour à son public d'une autre grande dame. Vous êtes de retour dans la compagnie théâtrale sur Radio Aviva, en compagnie de Jacques Matheux, à la découverte ou à la redécouverte d'Ariane Nouchkine. Parallèlement à tout cela, le Théâtre du Soleil, sous l'impulsion d'Ariane Nouchkine, essaime à l'étranger. En 2005, ce fut à Kaboul, à l'issue d'un stage, la création du théâtre Aftab, qui signifie « soleil » en dari. En 2015, ce fut la création de l'école nomade, offrant une immersion dans le processus de création collective, faisant comprendre combien cet art est un art tout à la fois d'évocation, d'incarnation et d'invocation. Ces premières escales ont eu lieu au Chili, en Suède, au Royaume-Uni et en Inde. Pour mener à bien toute cette entreprise, au-delà des comédiens et des techniciens, à côté d'Hélène Sixou, trois autres personnes sont déterminantes dans l'entourage d'Ariane Nouchkine. Guy-Claude François, Jean-Jacques Lemaître et Erhard Stiefel. C'est à eux quatre que se confie Ariane quand elle sent qu'un projet est en train de naître, pour prendre leur avis. Guy-Claude François est scénographe du Théâtre du Soleil depuis 1968 et signe tous les décors depuis l'âge d'or, capable de créer sur le plateau ce fameux vide matriciel si important, avec seulement quelques éléments d'accroche, des tapis de coco, des laits de soie au loin, rien qui ne cache l'essentiel, n'égare le regard, ne réduise la profondeur de champ. Le jeu des comédiens, l'imagination du public vont le remplir, ce lieu unique où l'on pourrait tout jouer, comme le rêvait Copeau. Jean-Jacques Lemaître, musicien, a rejoint quant à lui la troupe depuis Mephisto, d'abord pour enseigner quelques instruments aux comédiens et composer la musique de ce spectacle, puis finalement pour y élire domicile. Le jour où je l'ai rencontré, dit Ariane Nouchkine, je ne me doutais pas que je venais de rencontrer quelqu'un grâce à qui j'allais pouvoir désormais célébrer les réépousailles fondamentales de la musique et du théâtre. Il improvise avec la troupe, tisse sa musique sur la marche et la respiration des comédiens. Sa musique devient tantôt un autre texte, tantôt un sous-texte, toujours une onde en rapport avec celle du corps du comédien. C'est essentiel à l'écriture du spectacle. Erhard Stiefel, enfin, autre collaborateur d'importance, confectionne depuis Le songe d'une nuit d'été les fameux masques orientaux si chers à Ariane, lui donnant accès à un Japon imaginaire. Lui-même est resté 2 ans là-bas, dans une troupe de théâtre no. Et comme Ariane, il a été élève de Jacques Lecoq, alors comment ne pouvait-il pas se rencontrer et travailler ensemble? Pour couronner enfin ce parcours tellement riche et exceptionnel, sachez qu'en novembre 2019, au Japon, Ariane Nouchkine a reçu le prestigieux prix Kyoto dans la catégorie des arts et de la philosophie pour l'ensemble de son œuvre. Le prix Kyoto pourrait être comparé au Nobel. Il s'agit d'une récompense internationale décernée à des personnes ayant contribué de manière remarquable à l'amélioration scientifique, culturelle ou spirituelle de l'humanité. Belle reconnaissance d'une vie de théâtre passée à éclairer le présent, à rendre familier le plus étranger et à mettre à distance le plus familier. Voilà ce voyage dans la galaxie Ariane Nouchkine, tout près du soleil, terminé. Au Théâtre du Soleil, on a foi en l'homme. On a foi en l'art, cette arme contre la barbarie. On a donc foi en l'avenir. Prochain spectacle du Théâtre du Soleil, création collective en harmonie avec Hélène Sixou, en 2021, L'île d'or, Kanemujima, ode au théâtre qui éclaire les chaos du monde et illumine les nids et les coins de bonheur et de promesses d'où tout peut revivre en beauté, avec tout ce qu'il faut pour faire paradis, égalité entre les sexes, écoute et attention portée à l'autre, justice, culture des arts, création d'une mêle longue, l'utopienne, chantante, délivrée des sons rauques des vulgarités. Ce théâtre du présent pourrait contribuer un jour, peut-être, à rendre ce monde meilleur. Qu'en dites-vous ? À bientôt.
C'était La Compagnie Théâtrale, une émission présentée par Jacques Matheux, à retrouver en podcast sur www.radio-aviva.com.
C'est la radio qui fait sa révolution numérique avec une qualité optimale et des services nouveaux. Passez au DAB+ et appréciez les avantages de la radio numérique gratuite car sans abonnement. Alors n'attendez plus, un poste DAB+. En voilà une belle idée de cadeau. J'aime ma radio en FM. Je vais adorer l'écouter en DAB+.
Entracte.
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 Le magazine culturel de Radio Aviva.
J'ai le grand plaisir d'accueillir Stéphane Mélineau du groupe Les Négresses Vertes qui vient ce soir au concert, enfin pour présenter son dernier concert. Le grand plaisir d'accueillir Stéphane Mélineau des Négresses Vertes. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir.
J'ai hâte d'assister au concert comme tous ces gens qui attendent. On a un univers magnifique ici à Tours. Je pense que c'est peut-être pas votre première date ici. Vous connaissiez déjà les lieux?
Ben moi, j'ai grandi à Sète. Mon père, il faisait défiler pour les 10 maillots. Donc, j'ai grandi à la Corniche. J'allais à l'école Paul Langevin quand j'étais petit.
Oui, donc vous jouez à domicile ce soir?
Un petit peu, parce qu'après, je suis parti au Gros du Roi. Donc là, je suis de retour vers le futur.
Ce qui est formidable, c'est que Radio Aviva est présente à Montpellier, Nîmes et Perpignan. Donc c'est vraiment le fief, on est vraiment là. Alors j'ai envie de dire que ce soir, alors vous êtes le fondateur, l'un des fondateurs du groupe Les Négresses Vertes. Vous êtes ce soir aussi en famille, puisque Isa est là aussi.
Oui, Isa est là, Mimi est là, Gwen est là. On a deux nouveaux musiciens depuis le début de cette tournée. Depuis 2018, donc on a embauché deux musiciens nouveaux, Mathieu Rabaté à la batterie et François Cisco Touche à l'accordéon, au piano. Voilà, et donc c'est, oui, on est quatre membres, il reste quatre membres sur six de l'ancienne époque. Vous savez, les groupes, c'est un peu l'histoire des groupes, la vie ça passe, il y en a qui s'en vont, il y en a qui meurent, il y en a qui passent à autre chose. L'important c'est que le noyau dur est toujours là.
Et ce qui est important pour le public, nous qui vous connaissons depuis le début, finalement, parce qu'on est de la même génération, c'est aussi de le faire connaître aux jeunes générations.
Ben oui, maintenant on est rentré dans un truc un peu transgénérationnel avec les Négresses Vertes. Donc là, les concerts qu'on a fait ces derniers jours, on a joué devant des publics gratuits, donc c'est un peu tout le monde, quoi. On avait des jeunes, des moins jeunes, des parents, des enfants, des grands, des mamies et tout. Et c'est génial, parce que tout le monde communiait avec la même énergie, avec le même feeling, ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, qui sont heureux de faire découvrir quelque chose aux plus jeunes.
Et j'ai envie de dire, en fait, c'est aujourd'hui les grands-parents qui emmenaient peut-être leurs enfants et qui emmènent leurs petits-enfants maintenant.
C'est un peu ça, et nous, ça nous convient tout à fait.
C'est vraiment un groupe mythique pour nous qui vous avons connu au début, finalement. Et donc ce concert, ces concerts anniversaires, finalement, que vous faites depuis 2020, si je ne me trompe pas.
On a commencé en 2018, on était parti pour faire une quarantaine de dates. Et là, on va être bientôt à 300, donc vous voyez, un truc, ça nous a complètement dépassé, encore une fois. Mais tout ça, c'est bien que du public. Nous, on n'est pas passé à la télé, on n'a pas dit... nous voilà, vous allez voir ce que vous allez voir. On a juste fait des concerts et on les fait bien. Et le public, le bouche à oreille, ça fonctionne super. Et puis les petites radios comme ça, à droite, à gauche. Mais les médias...
Et les grandes radios, mais surtout, nous qui vous suivons depuis le début, en fait, ce qu'on aime aussi, c'est l'authenticité des Négresses Vertes.
Ben oui, je crois que c'est le... On parle directement aux gens à qui on s'adresse. Et puis avec nous, ce qu'on nous dit souvent, le public, c'est qu'aujourd'hui, on est entré dans le moment où... Avec nous, on revit une époque. C'est l'époque des fins des années 80, début des années 90, qui était une époque complètement, totalement différente de ce qu'elle est aujourd'hui, à tout point de vue, quoi. On pensait avoir mis de côté tout ce qui est des problèmes, racisme, religieux, enfin, tout ce qui peut faire chier les gens et les forcer à se battre entre eux. On pensait tout ça révolu, c'est revenu. Comme quoi, l'histoire se répète et les trucs là qui... On devrait mettre des désherbants sur ces idées-là. Vous savez, je ne sais pas comment ça s'appelle, le produit là.
Oui, alors il y a des. Alors on ne citera pas de marque, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de véhiculer toujours un message positif. Et les Négresses Vertes, on vous connaît, on sait la culture et les idées et la qualité musicale aussi, et du chant.
On est garant de l'état d'esprit d'une époque. Et c'est aussi. Voilà, c'est aujourd'hui, quand on va voir un concert, on n'a pas envie que le gars nous raconte ce qu'on vit très bien tous les jours dans la vie courante, quoi. On a envie, les concerts, ça sert à s'évader. Pendant une heure et demie de show, tu penses plus si t'as des problèmes avec ton compte en banque ou avec ton conseiller médical, t'es là, on communique, quoi. Ça sert à ça, vraiment, la musique, c'est le pouvoir vider la tête des gens et les faire passer, simplement vivre un bon moment, quoi.
Moi, ce que j'aime dans votre façon d'exprimer les choses aussi, c'est que là, on est peut-être à une heure du concert et on ne ressent pas de stress, on ne ressent pas de trac. Vous êtes tellement pro, tellement habitué de toutes ces dates.
Ben oui, on n'est pas. Moi, ça fait 40 ans que je fais de la musique. J'ai 63 ans aujourd'hui, donc ça fait plus de 40 ans que je suis dans la musique, je chante, je monte sur scène régulièrement. Voilà, des grandes scènes, des petites scènes, j'ai fait beaucoup de café aussi, j'ai tout fait en fait, je fais tout avec mon travail. on a un travail fantastique. La musique, c'est vraiment quelque chose de... voilà, c'est même... Il y a certains qui pourraient ne pas le prendre comme un travail. Moi, je pense que c'est un boulot, parce qu'il y a des contraintes terribles que les gens de l'extérieur ne doivent pas connaître. Mais voilà, c'est un boulot qui te revigore.
Non, c'est magnifique, on est très heureux et on a hâte de faire participer tout le public de Radio Aviva. Merci beaucoup Stéphane.
Merci à vous et à bientôt.
Et à bientôt dans la région. Aviva. J'ai le plaisir d'accueillir Sandra Nkake qui vient de nous livrer un magnifique concert explosif comme à ses habitudes. Bonsoir Sandra.
Bonsoir.
L'idée, on a un autre concert en parallèle. On a vraiment, j'ai l'impression que le public était venu pour Sandra. Ça c'était vraiment manifeste.
Écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai vraiment eu la sensation, et nous avons eu la sensation sur le plateau, que le public était à l'écoute pour découvrir ces nouvelles chansons, ce nouveau voyage, qui est un moment à la fois d'introspection, de guérison, mais aussi de chant collectif. Et c'était une très très belle énergie, et j'ai pu croiser quelques personnes après le concert, notamment un petit garçon qui s'appelle Léandre, qui a 4 ans et demi, dont c'était le premier concert ce soir. Et je trouve ça extraordinaire de pouvoir toucher une nouvelle personne avec notre musique.
Oui, alors en fait, il faut rappeler pour nos auditeurs, c'est que vous êtes auteur, compositeur, interprète, vous avez eu une victoire de la musique en 2012, et des concerts, vous en avez fait des centaines, j'imagine. Donc là, ce soir à Tau, enfin à Metz exactement, sur le festival de Tau, les temps de Tau, on a vraiment un public qui est venu pour faire la fête.
Oui, qui est venu pour faire la fête, qui est venu pour se mélanger, qui est venu pour, je pense, à peu près la même chose que la raison qui me pousse à faire de la musique, c'est-à-dire questionner ce qui fait société, comment on peut voilà, créer un espace où il y a de la place pour chacun, chacune, un espace de vie un peu plus juste, avec plus de vibrations les unes avec les autres. Et ce soir, c'était merveilleux d'échanges. Il y avait à la fois de la douceur, de l'écoute, de la bienveillance, et aussi de la folie, de la joie, de la rage, de la contestation. Et c'est important. Moi, je prends vraiment la mesure de la chance que j'ai d'être une antenne, d'être traversée par de la musique, et voilà, et d'être ménestrelle, troubadour, voilà, avec des chansons que j'imagine, que je crée, que j'arrange avec mes amis et mes musiciens, musiciennes. On crée un spectacle, on crée un voyage dans lequel les gens plongent avec générosité, et c'est une vraie chance.
Mais ça se ressent, et puis surtout, c'est toujours un échange avec le public, donc ce que vous donnez, le public vous le retourne.
C'est incroyable. C'est-à-dire que évidemment, on donne beaucoup, mais on prend aussi beaucoup d'énergie, qui fait que là, on est à trois quarts d'heure après la fin du spectacle, et je suis encore un peu comme en lévitation, parce que quand on fait de la musique, enfin, quand on fait un spectacle vivant, il y a ça de particulier, c'est que on touche chacun, chacune à un endroit qui est intime et qui est très précieux, et qui n'a pas de prix, que rien ne peut acheter. L'argent ne peut pas acheter ça. Et donc, c'est une chance que ces gens des festivals existent, que des gens nous découvrent. Il y avait des gens qui nous connaissaient ce soir, mais des gens aussi qui venaient pour nous découvrir. Et vraiment, c'est merveilleux.
Sandra, est-ce que vous voulez bien peut-être nous retracer un petit peu ces années depuis 2012? Il s'en est passé des choses. Je sais que vous venez de sortir un quatrième album, mais il s'en est passé des choses en 11 ans.
Alors oui, mon premier disque est sorti en 2008. Puis mon deuxième en 2012, j'ai eu la victoire de la musique, et puis on a fait beaucoup de concerts, on a fait presque 300 concerts sur cette deuxième tournée. On a monté un label avec Gidru et quelques amis, donc on s'est mis à être producteur indépendant aussi. On a monté un collectif qui s'appelle Push Up, puis on a produit les premiers disques de Gidru. Puis pendant le confinement, on a créé un spectacle qui s'appelle Elle, en trio avec un violoncelliste qui s'appelle Paul Collomb. Et c'était un spectacle autour de chansons écrites et composées uniquement par des femmes. Et puis pendant le confinement aussi, on a créé un collectif qui s'appelle Tribe from the Ashes, où on est 16. Des violoncelles, de la contrebasse, de la harpe, du saxophone, beaucoup de chants. Et c'était une manière pour nous de créer du lien dans un moment où on était tous confinés, enfermés et poussés à être seuls. On s'est dit que c'était important de pas accepter le repli sur soi et d'essayer d'être un maximum ouvert. Donc ça, c'était une aventure collective assez folle. Et voilà, et puis produire ce quatrième album qui parle évidemment de l'idée de parcours. Ça s'appelle Scars, ça veut dire les cicatrices. Et c'était important pour moi de transformer une matière intime en matière politique. Et je dis bien intime et pas personnel, parce qu'il ne s'agit pas de raconter ma vie personnelle dans ses détails, mais comment ce qui a pu impacter ma vie peut être transformé en matière qui va permettre à d'autres de se reconnaître, de comprendre qu'on possède chacune et chacun des ressources pour guérir. Et en fait, les cicatrices, elles sont très belles. Elles racontent le chemin qu'on a parcouru pour guérir. Et en fait, on est dans des sociétés, qui sont malades, parce qu'individuellement, on est malade. On est dans un monde qui est très très violent. Et grâce à la musique, grâce au chant en particulier, on arrive à trouver des espaces de vibration qui sont très lumineux. Et ces chansons, elles parlent de ça. Elles parlent de se réunir, de chanter, d'accepter de ne plus être dirigé par ses traumas, de s'en occuper, de les guérir. Et ensuite de pouvoir regarder et embrasser ces cicatrices et se dire, ben voilà, j'ai parcouru du chemin et on n'y arrive jamais seul. Ça, c'est important aussi.
Et alors, vous avez des projets, j'imagine qu'il y a encore beaucoup de dates cet été. Ça, on peut peut-être en parler.
Oui, on a encore beaucoup de concerts. On va rejouer à Paris le 29 juillet pour le Festival Paris l'été. On va jouer à Crozon, Festival du Bout du Monde, le 4 août. Ensuite, on fait une petite pause parce qu'il faut se reposer. Et on reprend les concerts le 26 août, Festival Rosa Bonheur. Et puis après, on est en concert septembre, octobre, novembre, décembre. Petite pause autour de Noël, et puis on reprend janvier, février, enfin jusqu'à au moins fin 2024.
Donc vous avez une année qui est déjà très chargée.
Bah écoutez, on a cette chance d'être écouté, d'être suivi par plein de publics qui ont envie qu'on vienne à eux. Donc nous, on voyage tant que les gens ont envie qu'on vienne.
Est-ce qu'on peut imaginer un concert live à la suite de tous ces concerts?
Vous voulez dire un album live?
Un album live.
Alors, figurez-vous que ce soir, on m'en a encore reparlé. Donc, c'est une idée qui trotte. Donc, peut-être qu'à un moment donné, on va s'y mettre. En tout cas, ouais, ça fait un petit moment qu'on y pense. Donc, on va peut-être le faire. Ouais.
Oui, parce qu'il y a une énergie. Puis, on ressent... chaque jour, le concert est différent. Donc, c'est toujours... Pour un fan, en fait, c'est toujours intéressant d'avoir une version live.
Oui, en tout cas, c'est intéressant, mais c'est vrai que ça demande d'autres moyens de production et de réalisation. Et il faut s'entourer des bonnes équipes pour ça. Mais en tout cas, ça fait déjà une petite année que ça me trotte dans la tête, donc je pense qu'on va, on va tâcher de le mettre en place.
Merci beaucoup. Est-ce que vous voudriez faire passer un message, peut-être, avant de terminer cet entretien ?
Eh bien, à toutes les personnes qui m'écoutent, qui nous écoutent, ce que vous êtes, ça suffit.
Merci beaucoup Sandra et bonne fin de concert et bonne fin d'été.
Merci beaucoup, à bientôt.
Entre Nîmes, Montpellier et Perpignan, Radio Aviva.
Allez viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant. Que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent. Que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle, artificielle. que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel, artificiel.
Toute la journée, de 6h à 20h, Radio Aviva renforce l'info avec des flashs locaux, nationaux et internationaux, 7 jours sur 7.
I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I start a replace. Cause now that the corner lock, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. So, before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were the storm to weather. So, before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel so. Never the right time, whenever you're cold. Went little by little by little until there was nothing at all. Our every moment, I started to replay. But all I can think about is seeing that look on your face. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, some can heal, but this wound.